Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une seule terre sur Divergence FM.
Et oui, comme le dit le petit générique, bienvenue dans Nous n'avons qu'une terre, la nouvelle émission sur Divergence FM qui va parler des problèmes climatiques, mais pas que. Avec nous, notre nouvelle animatrice fraîchement recrutée chez Divergence FM, Dominique Martin-Ferrari. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous, pour nous accompagner durant cette interview, Naomi Charmetan. Bonjour Naomi.
Bonjour à tous.
Alors Dominique, vous êtes venu nous voir à Divergence pour mettre en onde avec nous une émission qui va parler du climat, mais pas que. Alors avant de parler de l'émission à proprement parler, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre parcours, que les auditeurs puissent comprendre un petit peu pourquoi vous êtes venu pousser la porte de Divergence FM.
Bon, alors pourquoi je suis venue ? Parce que j'adore le journalisme, que je pense que c'est un virus et qu'on ne le perd pas, même en vieillissant. Donc, j'ai un certain âge, donc j'ai partagé déjà beaucoup de choses avec la planète. Disons que après avoir fait des études de philosophie, j'ai fait du journalisme en presse écrite à l'époque où personne se souciait des problèmes environnementaux pratiquement. Mmh. Puis ensuite, j'ai eu une émission sur RFI et en fait, j'ai fait de la production audiovisuelle avec une émission télé produite sur Gaïa qui s'appelait Gaïa, le magazine de l'environnement-développement. Mmh. Alors à cette époque, d'ailleurs, on n'osait même pas parler de développement durable parce que c'est un gros mot et parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc, on parlait encore de l'environnement-développement. Donc, effectivement, j'ai assisté à un moment où la planète entrait dans la mondialisation et commençait à se préoccuper un peu des relations entre le Nord et le Sud, dans la mesure où on avait une fracture absolument fantastique entre les pays riches et les pays pauvres.
Fracture qui existe toujours, hein, d'ailleurs.
Fracture qui existe toujours, mais si vous voulez, qu'un certain nombre de choses que moi j'ai suivies, de grandes réunions internationales onusiennes que j'ai suivies, on tente encore aujourd'hui de résoudre et que petit à petit, on résout. Alors, est-ce qu'en donnant aux hommes un peu plus de confort... on ne le fait pas au détriment de la planète. Ça reste la grande question. C'est pour ça que je suis attachée à ce titre « Nous n'avons qu'une terre », qui était un rapport qu'avait demandé Maurice Strong à l'époque, dans les années 72, juste avant le premier sommet onusien de Stockholm et juste avant qu'on commence à se préoccuper des problèmes de mondialisation, parce qu'on s'est aperçu que la pollution n'était pas seulement locale, mais qu'elle s'étendait et qu'elle se partageait. Mais j'ai encore beaucoup d'interrogations.
Eh oui. Alors, quand vous avez poussé la porte de Divergence FM, vous nous avez dit, oui, mais le réchauffement climatique, ça ne date pas des années 1990, c'est bien avant. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu l'historique climat et de ce qu'ont fait les humains pour contrer ce réchauffement climatique ?
Je ne sais pas si je saurais vous faire un historique très sérieux à vérifier, quoi. En tout cas, le premier rapport du GIEC date des années 88. Et donc, depuis, on en est maintenant au 6e ou 7e rapport, je ne sais plus. Toujours est-il que donc, on ne peut pas dire, comme l'a dit notre président lors des vœux, qu'on a été supprimé et qu'on a été surpris par une crise climatique. Oui. Là, tout le monde a rigolé, mais c'est incroyable qu'un discours comme celui-là ait pu passer. En tout cas, bref, le réchauffement climatique, il est effectivement annoncé depuis longtemps, depuis les années 80. Il a été... alors, C'était très difficile parce que personne au départ n'y croyait. Oui. Et on avait des grands climatologues comme Leroy Ladurie qui évoquaient le fait que la planète était passée par des aires climatiques extrêmement différentes. Mmh. Et c'est vrai. C'est vrai que notre planète a vécu des moments de refroidissement, des moments de réchauffement. La grande différence, c'est que, et c'est ce qu'affirmaient les premiers rapports du GIEC, on nous annonçait que ce réchauffement était lié à l'activité humaine de la révolution industrielle.
Oui.
Donc, c'est parce qu'on avait utilisé du charbon et du pétrole qu'on avait émis des gaz à effet de serre et qu'on aboutissait à ce réchauffement. Et là, à partir de là, évidemment, puisqu'on donnait comme responsable l'homme responsable de ce problème, vous avez eu une montée en puissance des climato-sceptiques qui fait que toutes les années 90 ont été occupées par des gens dont, vraiment, aujourd'hui, je les rends responsables de la situation actuelle parce qu'ils nous ont fait perdre un temps manifeste.
Mmh. Vous parlez de nos politiques un petit peu en disant ça.
Par exemple, Claude Allègre.
Ouais.
Claude Allègre était à la fois un scientifique, mais il était en même temps ministre de la science.
Ouais, ouais.
Et moi, je l'ai entendu dire des énormités sur le réchauffement climatique. Donc voilà, on a eu toute une période où on a été obligé de mettre nos copies en silence et puis de vivre. Mais c'est vrai que ça sous-entendait beaucoup de choses. Accepter le réchauffement climatique, ça voulait dire accepter qu'on change notre manière de vivre, qu'on change notre manière de dialoguer à échelle mondiale, puisque c'était le Nord qui était bien sûr responsable des émissions et qui... Et c'était le Sud qui subissait.
Qui subit.
Donc, on avait à la fois changé notre industrie, on avait à la fois changé notre diplomatie, on avait nos scientifiques. Nos scientifiques étaient encore en silo. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui s'occupaient de la mer, ceux qui s'occupaient des volcans.
Il n'y avait pas d'interdisciplinarité.
L'interdisciplinarité est arrivée depuis une dizaine d'années, 15 ans, on va dire. Et Montpellier est exemplaire dans ce domaine. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et tout le monde n'est pas encore au niveau de Montpellier ce plan-là.
Ça, on peut le dire.
Voilà, tout le monde n'a pas muse, tout le monde n'a pas encore mis en place son interdisciplinarité. Et puis, il fallait, en tant que citoyen même si on ne représente que 25% de la pollution, de la responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, il fallait aussi que les citoyens changent leur manière de vivre, c'est-à-dire leur voiture.
Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous nous dites ce sont les citoyens qui représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les autres pourcents? Donc, on imagine les usines...
Alors, j'avais du mal à vous donner exactement les pourcentages, mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a d'abord les industries, d'une manière générale, dont l'industrie aéronautique, qui est une des principales, l'industrie maritime aussi, qui aujourd'hui d'ailleurs fait de gros efforts. Enfin, toutes ces industries sont obligées aujourd'hui de faire des efforts dans la mesure où les pays se sont engagés à des réductions extrêmement importantes. Donc, obligatoirement, ce sont les entreprises qui sont responsables, qui sont obligées de faire... et puis, un secteur que l'on vient de découvrir récemment et qui n'était pas tellement pris en charge, c'est l'agriculture.
Oui.
L'agriculture, avec ses émissions de méthane, est devenue un des facteurs les plus... donc, l'agriculture industrielle, notamment, l'élevage industriel.
Encore plus récemment, le numérique.
Pardon. Si,
l'industrie du numérique.
Alors, l'industrie du numérique, mais ça, c'est encore plus récent.
Encore plus récent,
c'est encore plus récent. Et l'industrie du numérique, effectivement, représente ou représentera des émissions carbonées extrêmement importantes. Alors, les solutions commencent un peu à intervenir. Mais on ne peut pas dire que c'est l'industrie du numérique aujourd'hui qui est responsable de ce qui s'est passé. Voilà.
Mais c'est nouveau, on est en train de l'apprendre petit à petit.
Internet consomme beaucoup. Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites.
Ce n'est pas Internet, attendez. Internet consomme beaucoup. C'est essentiellement vos échanges de vidéos. C'est essentiellement les images.
C'est le tube.
C'est pas Internet lui-même. Ouais. Donc il faut faire très très attention parce que quand on va demander des comptes sur les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire attention de le faire correctement et de ne pas le faire idéologiquement. Mmh. Vous avez des espèces de messages qui sont diffusés un peu partout et qui sont globaux et qui manquent de... On a souffert aussi de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mensonges, enfin, ou de fake news qui ont circulé que obligatoirement on a un peu décalé les responsabilités. C'est-à-dire on ne s'est pas attaqué tout de suite à ceux auxquels il fallait s'attaquer.
Oui. Mais d'ailleurs, moi, je donne toujours cet exemple. Quand on va au supermarché faire nos courses, en tant que particulier, on vous donne un tube de dentifrice avec du carton autour. C'est au particulier de dire non, je ne veux pas le petit carton qu'il y a autour. Mais il est quand même là, le carton. Donc même en changeant nos habitudes, ça ne peut passer que par les industriels en premier, je pense.
Ça sera les deux, mon général.
Ça sera les deux.
Je pense que les deux vont arriver en même temps. C'est-à-dire que plus vous êtes sensibilisé, plus vous êtes attentif, effectivement, au carton qui entoure votre dentifrice, hein, vous êtes quand même celui qui est payé. Donc, vous êtes celui qui a le pouvoir. Et donc, obligatoirement, l'entreprise est quand même, d'une certaine manière, un peu dépendante de vous.
Oui. Absolument.
Donc, c'est pour ça que la responsabilité reste quand même aux citoyens, aux consommateurs.
Donc, en phénomène de société, alors.
Donc, on est un phénomène de société. Et c'est parce que, en tant que citoyen, vous allez agir, que, en tant que citoyen, vous allez pouvoir jouer sur la manière dont les choses sont produites. Mais c'est aussi en tant que citoyen, si vous continuez à croire en la démocratie, que vous allez pouvoir obliger aussi vos représentants politiques à se préoccuper de cette situation. Or, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'écologie fasse partie en priorité des programmes.
Absolument.
Non.
Alors moi, ce que je remarque toujours, c'est qu'il y a plusieurs générations face au changement climatique. Alors je schématise très vulgairement, hein, attention. On a les personnes un peu plus âgées, un peu plus vieilles qui nous disent « oui, bah, c'est triste », mais qui en même temps, en sortant des pièces, n'éteignent pas les lumières, ne font pas forcément de tri. Il y a la génération...
Ou ne savent pas faire le tri.
Il y a la génération à laquelle j'appartiens, on va dire les quarantenaires, qui eux sont en plein dedans, qui vivent la chose. Et puis il y a la génération qui arrive et qui se dit « attention, stop, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas de cette planète, justement, parce qu'on n'en a qu'une. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous pensez que justement ce phénomène de société qui est en train de s'amorcer, mais qui ne s'amorcera pas avec les générations déjà là, et notamment les vieilles générations, est-ce que vous pensez que cette jeunesse qui arrive derrière permettra justement de changer quelque chose?
C'est-à-dire que la jeunesse qui arrive, elle va avoir le choix, à mon avis, entre deux choses. Elle va avoir le choix entre une écologie imposée, parce que les faits sont tels, par exemple le réchauffement climatique, la montée des eaux, etc. C'est indéniable, ça dépend plus de l'homme maintenant, c'est fait, c'est en route, la disparition des espèces, etc. Ouais. Donc, comme c'est l'homme qui a besoin de la planète et que ce n'est pas la planète qui a besoin de l'homme, obligatoirement, les hommes vont être obligés d'être attentifs. Donc, on va avoir une génération qui va, à mon avis, être partagée en deux. Il va y avoir ceux qui vont se dire « moi, je suis un citoyen, je crois au bien commun ». Je crois à cette planète, je veux sauver cette planète, et donc je vais faire quelque chose. Et puis il y aura une autre génération qui dira, de toute façon, tout est pourri, tout est foutu, tant pis.
On est un peu entre deux. Hein. Moi, je vois ma génération, on est dégoûté de devoir se priver, nous, de prendre l'avion. Aujourd'hui, on est obligé d'arrêter en fait, de voyager, de prendre l'avion. C'est juste,
oui, mais
c'est
votre
plus
génération,
possible, c'est trop mal vu.
Là, ce n'est pas une image de votre génération. Moi, votre génération, je la connais autrement. Je la connais par aussi des Greta Thunberg, je la connais aussi par des associations comme Extinction,
de choses.
Extinction alors, Rebellion,
on
etc.
On a 20 ans et on est censé pouvoir...
Il faut se priver. De toute façon, il faut se priver.
On est dégoûté.
De toute façon, si on veut tenir la planète dans ses limites, il ne faut plus qu'il y ait de dépassement. Il faut revenir à... Avant les années, des années 60, il faut revenir avant ces années de consommation à outrance. Il faut obtenir l'arrêt de l'utilisation des fossiles. Il faut effectivement... Mais est-ce que la sobriété ne peut pas être heureuse ? Moi, j'ai connu ma grand-mère. J'ai été élevée par ma grand-mère et j'étais hyper heureuse. Oui. J'ai pris l'avion pour la première fois. J'avais 40 ans. J'avais 40 ans quand j'ai pris l'avion pour la première fois. Aujourd'hui, moi, je vois mes petites nièces à 18 ans, elles veulent prendre l'avion. Eh ben non, elles ne prennent pas l'avion. Voilà. Et on a une génération de 20 ans qui, effectivement, est obligée de se priver. Mais après tout, elle se prive de quoi ? Elle se prive simplement de ce que se sont privées les générations d'avant. Donc, d'avant, il faut qu'elles apprennent à attendre. Il faut qu'elles apprennent, pourquoi pas.
Alors ça, c'est rigolo, ce petit débat là, qui, parce qu'on se rend compte que, notamment au travers de ce que dit Naomi, c'est « Ouais, mais nous, on n'a pas envie de payer pour les autres. »
Ils ne payent pas pour les autres.
Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que...
Ah ben si, c'est ce qu'on vous a laissé.
Ils ne payent pas pour les autres, non. Ils ne payent pas pour les autres. Ils continuent à payer s'ils surconsomment. S'ils ne surconsomment... On a surconsommé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a mis la planète à sac. Bien.
Seulement 20 ans ?
Oui, bah de 70 à aujourd'hui.
Voilà. Ça fait plus de 20 ans, ça fait 50.
Bon. Non, pas 50, hein, 60, avant 68. 68 était déjà le premier mouvement écolo qui allait anti-consommation. Donc, en 68, on est anti-consommation. On est anti-bagnole, les bagnoles brûlent dans la rue, etc. Donc, rappelez-vous, mais 68, c'est la fin de la société de consommation. En tout cas, c'est à toute une jeunesse qui s'oppose à l'époque à la consommation. Donc, daté 68. 72, c'est Stockholm. Donc, c'est la sortie de justement, nous n'avons qu'une terre.
Mais là, on est en plein dans la société de consommation. On l'est encore à 3000.
Ah ben oui, mais on a toute une jeunesse. Moi, j'avais 20 ans, 30 ans. Et on a toute une jeunesse qui est contre cette société. On est les Greta Thunberg de l'époque.
Oui, mais la majorité de la planète est quand même en pleine consommation.
La majorité de la planète, c'est qui ? C'est d'une part des gens comme Allègre, qui ont 30 ans de plus et qui sont des climato-sceptiques.
Ouais.
Voilà. Ou bien ce sont des... C'est-à-dire, c'est pas les jeunes qui continuent à... C'est pas les jeunes qui consomment.
C'est justement la question que j'allais vous poser.
Ah non, c'est nous qui sommes en plein dans la fast fashion, la consommation de viande, la consommation d'avion.
Non, ne croyez pas ça. Moi, je n'ai pas de voiture. Moi, je trie mes déchets depuis longtemps. Donc, on est combien à aujourd'hui être des écologistes qui ne sont d'ailleurs pas dans un parti, surtout pas, mais des écologistes qui ont pris la mesure des limites de la planète. Et depuis, moi, ça fait 50 ans que je travaille à cela.
Et vous pensez qu'il y a toujours des climato-sceptiques après ce que l'on
Alors,
vit
ils sont
ces
en train
dernières
de revenir.
Années Ils reviennent.
Ils sont en train de revenir aux États-Unis. Aux États-Unis, on voit réapparaître. Mais alors, c'est lié à tout ce qu'on appelle le complotarisme. On a aujourd'hui des platistes, on a aujourd'hui des créationnistes, et on a de nouveau des climato-sceptiques. Et tant qu'il n'y aura pas un arrêt, de toute façon, de l'usage des fossiles, on continuera forcément à avoir, tant qu'on pourra s'enrichir, avec les fossiles, obligatoirement, on fera encore du mal à la planète.
D'accord. Allez, Dominique, maintenant, j'aimerais bien qu'on a parlé un petit peu d'environnement, on a un petit peu débattu, j'aimerais bien qu'on revienne à cette nouvelle émission. On est le 20 janvier 2023, c'est la première émission de Nous n'avons qu'une terre avec vous, Dominique Martin Ferrari. Donc là, bon, on vient de un petit peu débattre, de donner un petit peu nos avis, mais quel va être le corps un petit peu de cette émission ? Qu'est-ce que vous prévoyez dans les émissions à venir ?
Ben, justement, ce que j'aimerais pouvoir traiter au cours de cette émission, c'est justement combattre un peu tout ce qui est toutes les fausses rumeurs.
Hein. Oui.
Il existe, par exemple, la génération dont Noémie parlait, que j'écoute beaucoup, et il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on s'est un peu engagé comme ça que je ne la méprise pas du tout. J'ai une très, très grande écoute. Et je crois que cette génération, par exemple, j'ai découvert qu'elle faisait apparaître le problème seulement aux accords de Paris. Donc, c'est-à-dire en 2015. Elle fait apparaître le problème du réchauffement climatique en 2015. Mais c'est faux, quoi. Mmh. Donc, il y a plein de choses qu'il faut aujourd'hui rappeler, notamment en termes de biodiversité, en termes de climat. Il faut rappeler la longue histoire, le long cheminement. Et puis, essayer surtout de ne pas quand même être tout le temps dans le rétroviseur, parce que ce serait une grave erreur, et d'essayer de voir, aujourd'hui, il y a des tas, des milliers d'expériences qui sont menées et qui montrent qu'on peut peut-être parvenir à des équilibres. Je ne dis pas que... attends, le bonheur, chacun le définira selon sa... selon lui-même.
Alors, vous souhaitez alterner un peu entre l'historique et l'actualité de... Oui. De ce débat politique.
Oui, en permanence. Mais surtout en gardant en tête le fait que l'humain n'est qu'un des vivants de la planète.
Et oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au Canada il y a très peu de temps, dont vous m'avez parlé. C'est comme une COP, mais sur la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu que,
apparemment, Mais c'est une COP
C'est une COP. Et donc, la biodiversité va très, très mal sur la planète.
Ben, la biodiversité va très mal. Alors, le problème du réchauffement climatique ajoute, bien sûr, mais la biodiversité a été victime d'une agriculture intensive, victime de la bétonisation, victime de l'ouverture des villes, victime des routes, etc. Enfin bon, je rappelle que l'histoire de l'écologie commence par le printemps silencieux. À l'époque, on avait des pesticides et on n'entendait plus dans les campagnes. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation où vous pouvez faire des kilomètres sans voir un moustique sur votre pare-brise. Donc, il y a une disparition des espèces. Alors, ça nous touche moins parce que on subit moins. Une canicule, on la subit et c'est on la vrai. Voit. Ouais. L'absence d'une espèce, on le sent moins. Quoi. Mais c'est notre survie quand même. Derrière la biodiversité, c'est notre survie.
Ça a plein d'impacts nourriture. Derrière que nous, on ne remarque pas au final.
Oui.
S'il manque des abeilles, il n'y a plus de...
Et c'est notre nourriture surtout. C'est que sans biodiversité, il n'y a plus de nourriture. Sans biodiversité, il n'y a plus effectivement de pollinisation. Sans biodiversité, il y a plein de choses qui disparaissent.
Est-ce que vous trouvez que du coup cette COP elle a eu plus d'impact que les COP la COP qu'on vient d'organiser en Égypte, qui était sur un autre thème?
Sur le climat en Égypte, mais si vous voulez, et bon, alors d'abord cette COP sur la biodiversité, on l'a attendue un petit peu parce que elle était dirigée par la Chine. Donc la Chine a vécu le Covid pendant 2 ans et que voilà, mais elle est aussi importante. Ouais. Bon, on en parle moins, mais elle est aussi importante. Mais elle commence à s'imposer doucement.
Ouais.
Les derniers rapports sur la démographie nous disent que d'ici 2100, ça risque de s'effondrer un petit peu. C'est bon pour la planète, mais ce n'est pas génial pour l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que...
Moi, je pense que c'est bon pour la planète.
Voilà, cet effondrement est normal, en fait.
Oui,
chacun son
Moi,
tour.
Non, mais je pense que de toute façon, c'est lié à la cause des femmes. Et qu'aujourd'hui, une femme qui a le droit de travailler... avoir 5-6 enfants, c'est pour ça qu'on parle peu de la démographie. La démographie est tellement liée à un problème culturel, à un problème de religion, à un problème d'intimité, qu'on en parle peu parce que comment donner des règles à une femme qui est libre de son corps et qui est libre de ses décisions? Donc, voilà.
Alors bon, là, on parle de tout ce qui n'est pas génial. La planète va mal, très bien, mais il y a des solutions. Est-ce que vous, tout au long de ces émissions, alors je sais que vous prévoyez une émission sur la vigne, est-ce que vous allez parler justement de ces solutions ou
Alors, je vais parler de ces solutions, mais disons que Nous n'avons qu'une terre ne sera pas une émission locale. Donc, local au sens de, justement, un groupe de personnes a mis en place une permaculture, un groupe de personnes a mis en place telle solution de covoiturage, etc. Tout cela est fait par ailleurs, remarquablement, par des parties en place, par des gens, des associations qui travaillent à ce sujet. Nous n'avons qu'une terre a encore besoin de prouver que nous sommes solidaires et que le monde... a encore besoin de règles qui soient des règles universelles. Mmh. Et on est de plus en plus dans une situation où on risque de les perdre.
Oui.
C'est-à-dire avec l'envahissement de l'Ukraine par l'URSS, mmh. on est aujourd'hui dans un système qui casse
ouais.
cet universalisme et ce multilatéralisme
ouais, ouais, ouais.
auquel moi j'ai fait confiance.
Ouais. Bon, on se rend compte que le monde se repolarise comme il y a peu en fait.
Ouais.
Et ça, ça fait peur justement. On
voilà.
parle des jeunes générations.
Voilà.
Ça fait
Je
peur
crois
un petit peu.
Le danger, il est là. Il est de ne plus croire en sa démocratie, en son pouvoir de citoyen.
Eh bien, écoutez, ça sera un petit peu le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Martin-Ferrari. Alors, la prochaine émission, rassurez-moi, ce ne sera ni Naomi, ni Bruno Bertrand qui seront au micro, c'est bien vous.
Merci.
Et on vous retrouve évidemment tous les vendredis à partir de midi sur Divergence FM. Et vous avez bien sûr la rubrique avec les podcasts sur le www.divergence-fm.org. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.